Mais sur la nationalité, le plus extravagant, on va dire, dans l'histoire, c'est que quand on est arrivé en France, moi pour la première fois, mais toi tu y revenais, on n'avait pas de papier, quoi. Enfin, on avait pas de, enfin, on était des touristes. Il n'avait pas le droit de travailler en France parce que sa carte de séjour était périmée puisqu'il était resté 10 ans en Algérie. Nous, on était argentins, ma mère est algérienne. Enfin, bon, c'était un espèce de truc un peu bordélique et tout ça. Et pas de papier, quoi. Donc, c'est un peu le.
Oui.
Bien sûr, tu n'as pas fabriqué des faux papiers
Non, non, non,
pour vous.
non, oui, non, non, j'étais contre. Ça n'aurait pas solutionné. De toute façon, on ne peut pas vivre toute sa vie avec des faux papiers. Les faux papiers, c'est pour des brèves périodes de passage de frontières ou périodes de fascisme virulent, mais on ne peut pas construire sa vie sur des faux papiers. C'est d'ailleurs le problème des sans-papiers d'aujourd'hui. On m'a posé souvent la question, et qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Bon, on ne peut pas vivre, construire sa vie avec sur des faux papiers, parce qu'il y a les questions familiales, il y a au-delà de la survie. Oui.
Oui, et puis
Oui.
c'est être condamné à de toute façon être dans la marge, alors qu'effectivement, la lutte, elle est sur le plan politique pour une régularisation réelle, puisque quelqu'un qui est avec des faux papiers ne peut pas rentrer dans la société.
Et le réseau que vous étiez à l'époque de la guerre, vous étiez très.
Comment?
Le réseau. Que vous étiez à l'époque de la
Oui.
guerre, très solidaire comme et très fort et
Oui.
assez petit, vous n'avez jamais eu de problème. Vous étiez toujours très prudent.
Oui, bien sûr, j'étais un peu, j'étais très très exigeant et j'avais la réputation d'avoir très mauvais caractère, ce qui est faux, parce que j'étais obligé d'être intransigeant. Parce que très vite, les gens se permettent des écarts, et puis de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a eu énormément d'arrestations depuis toujours, enfin, de partout. Et j'ai évité, à la fois pour moi et pour les gens, où après coup, on m'a dit, mais tu avais raison. À un moment, on m'en voulait à mort de ne pas accepter de rentrer. Vous verrez dans le livre, il y a eu des choses inadmissibles de fait, des imprudences qui ont fait des quantités de cadavres. Oui.
J'ai une question plus technique, oui, même si on comprend bien la portée de votre engagement et la motivation d'action qui vous a animé, mais concrètement, vous étiez autodidacte, vous avez commencé dans la teinturerie, et puis vous avez rencontré ensuite des chimistes, mais comment vous travailliez? C'était de l'observation, de l'intuition, vous faisiez des expériences
Alors, c'est-à-dire, j'ai toujours été un manuel. Bon, il y a une logique dans un travail. C'est-à-dire, j'ai fait de la mécanique, j'ai fait du travail du bois, etc. Pas professionnellement, mais j'ai toujours fabriqué tout ce dont j'avais besoin. Ça demande une logique et une réflexion. Bon, j'ai des amis qui m'ont dit un jour, ah, après la guerre, tu viendras chez nous avec les diplômes que tu as, tu rends compte. J'ai dit, attention, je n'ai que mon certificat d'études primaires que j'ai passé comme tout le monde à 12 ans. Point. La personne qui connaissait ma vie, qui l'avait partagée un peu, était complètement déboussolé. Ça lui semblait incroyable parce que il a assisté à des scientifiques qui venaient me voir pour me demander comment résoudre des problèmes que eux n'ont pas pu résoudre. Le problème, bon, je ne suis pas du tout un génie, rassurez-vous. Simplement, apprenant les choses tout seul, par petits bouts, on se construit un raisonnement et on a l'habitude de toujours trouver une solution. Ce que quelqu'un d'autre a fait, moi, je peux le faire. Bon, donc, cette logique fait que dans ma formation, j'ai lu des quantités de livres de chimie, de physique, bon, la photo, n'en parlons pas. J'ai donc tout essayé et tout fait, des jours et des nuits. Je dormais pratiquement pas, par nécessité, parce que j'ai des capacités de sommeil aussi extrêmes. Si je peux dormir 12-14 heures, je suis ravi et je m'en porte très bien. Malheureusement, ce n'était pas possible. Donc, j'ai englouti tout ce que j'ai pu trouver comme livre. Et encore actuellement, le CNRS ou l'INSERM m'appelle de temps en temps quand il y a un problème que personne n'a pu résoudre. Il m'arrive, pas toujours, évidemment, mais quand même un nombre impressionnant qui m'impressionne moi-même deux fois, où la solution, elle était toute simple, mais personne ne l'a vue parce qu'elle est trop logique et elle n'est pas dans les livres. C'est ça, les réalités de la vie.
Tu n'as jamais pensé aussi à publier un livre de recettes ?
Ben si, justement, j'en avais fait un quand j'avais... Oui, alors j'en avais fait un à 14 ans, mais c'était pas de ma... Voilà, à Vire, en Normandie, je fabriquais donc du savon, des tas de choses que je donnais. C'était ce que j'appelais la résistance passive, que je donnais aux gens pour qu'ils ne soient pas privés, ne pouvant pas faire de marché noir. Bon, je le faisais pour ma famille aussi et pour tous les gens qui en avaient besoin. En plus, les librairies, par exemple, m'a beaucoup aidé, consciemment ou inconsciemment, j'ai pas compris. Un jour, la librairie me donne des grosses masses de paraffine rouge et jaune, c'est-à-dire c'est sur les fromages, vous savez, qui ont, je ne sais pas le nom des fromages.
Le Babybel. Le Babybel. Le
Gouda. une petite croûte de rouge et d'autres ont une petite croûte jaune. C'est de la paraffine pure. Bon, comme ils n'avaient pas le droit d'en faire, ils avaient des stocks et ils me les ont donnés. Et avec ça, bah, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, des bougies. J'ai acheté des petites. Tube d'aluminium pour ranger les brosses à dents. J'ai percé le fond, j'ai mis une mèche au milieu, j'ai fait fondre la paraffine, j'ai versé et j'avais des bougies en paraffine qu'aujourd'hui on fait parce que c'est joli pour décorer. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de coupures d'électricité. Ça a dépanné des tas de gens de cette petite ville et c'était gratuit. Et ainsi de suite. Bon, ça n'a rien de génial, mais il fallait y penser, il fallait avoir envie de... je pourrais... Alors, par exemple, mes premières bougies, elles fumaient. La mèche fumait, j'avais trouvé des mèches. Alors, j'ai vu dans un bouquin qu'il fallait les passer à l'acide formique et les sécher, et ça ne fumait plus. Alors, je l'ai fait. Alors, il y avait aussi... dans la bibliothèque municipale, une revue qui s'appelait La Veillée des Chaumières ou quelque chose comme ça. C'était un journal un peu catholique, plus qu'un peu. Et dedans, il y avait toujours une page de trucs pour la maison. Ça veut dire, je me souviens, s'il y avait sur du marbre, sur la cheminée en marbre, une tache de graisse, comment l'enlever. Quand on a peint... Quand il y avait une odeur de peinture dans la maison, il fallait prendre un seau d'eau et mettre dedans du foin. Et ça absorbait l'odeur. Bon, toutes ces choses, je regardais et je le faisais pour voir si c'est vrai ou si je peux améliorer. Donc j'ai fait un espèce de petit recueil pour la ménagère, pour faire son savon, bien sûr, son cirage, et les produits pour laver le linge du carbonate de sodium, qui coûtait trois fois rien et qui, d'ailleurs, est bien meilleur que les lessives coûteuses qu'on achète aujourd'hui. Ta mère s'y est mise au carbonate de sodium maintenant, parce qu'elle en avait assez. Bon, il y a des tas de choses comme ça, même aujourd'hui. Enfin, c'est ça la vie. J'étais pas. Bon, les journées passent vite, il y a tellement de choses à faire, et puis tellement de services à rendre. J'ai toujours été étonné de voir que les gens sont passifs et ont un problème, ils restent devant complètement désarmés. C'est une question d'état d'esprit. Bon, je n'ai pas de croyances religieuses. J'ai un profond respect pour les êtres humains qui sont tous égaux dans ma tête. Et puis, il y a des choses que j'ai... des injustices flagrantes que je ne supportais pas. C'est tout.
En tout cas, tu as aussi rendu grand service à tous les écoliers. Parce que finalement, on ne sait pas, parce que tu n'as jamais été un grand businessman. Tu étais tout, mais peut-être pas le businessman, mais l'effaceur. Finalement, c'est toi l'inventeur.
Oui.
Tu nous as pas dit.
Non.
Le bleu de méthyl,
oui,
mais
oui, bien sûr, non, mais oui.
Oui, c'est peut-être, il faudrait analyser l'effaceur, mais s'il y a de l'acide lactique dedans.
Oui, ça dépend de quel effaceur vous parlez.
Tu sais, oui. On a dans nos trousses d'écoliers le stylo plume, et puis il existe des effaceurs qui ne sont pas du type, c'est pas du tout du type X, mais ça efface l'encre.
Oui, en une seule.
Ouais, c'est comme un petit stylo.
Oui, ah oui, ben faudrait que je vois.
Mais... Quand même, Adolfo, c'est une production.
Oui, je pense aussi. Ah, ça n'efface pas toutes les encres, oui. Voilà, et c'est la Waterman qui... Ouais.
L'encre bleue de méthyl.
Ah oui, d'accord. D'accord. Oui.
Je pense que c'est la même recette. Hein.
C'est la même recette. En fait, c'est l'encre.
Femme qui vient de très loin, de la République tchèque, pour
oui.
Voir avec beaucoup de retard, c'est pour ça.
Oui.
Oui.
Bah, Sarah, oui.
Un bouquin pour la ménagère.
Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle dit, on attend le bouquin pour la ménagère. À un moment donné, je pensais effectivement mettre des recettes au milieu. Et à un moment, et donc j'en ai parlé à mon père, et puis il m'a dit oui, mais tu sais, si on va loin dans ce truc et tout, il y a peut-être tout n'est pas bon à dire, parce que bon. Voilà. Donc j'ai vu que, oui, bon, effectivement, pour le savon, les choses comme ça, il n'y avait pas de problème, mais dès qu'on rentrait dans un truc un peu plus complet, il disait oui, mais alors si on sait faire ça, et que peut-être ça pourrait donner l'envie de faire ça. Donc il m'a dit non, pas de recette finalement pour ce livre.
Alors, il y a une chose qui m'a un peu frappée, parce que moi, j'avais jamais chiffré. Et puis, un jour, enfin, bon, d'abord, au-delà des décorations militaires, il y a 7 ans exactement, puisque le petit de ma fille avait 14 jours, quand elle est venue avec son petit de 14 jours dans les bras, à la mairie de Paris, à la remise de la médaille vermeille de la ville de Paris, que le maire me donnait, pour l'ensemble de mes activités, y compris de l'aide aux Algériens. Il faut le faire, parce qu'en général...
Pour lequel... Enfin, il faut le faire. Pour lequel, au départ, ce n'est pas ce qu'il voulait. Il a fallu insister. Enfin, pas insister beaucoup. Mais effectivement, il y avait ce truc de... tu étais décoré à chaque fois pour ton action pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est
normal, mais c'était aussi embêtant parce que les autres actions, voilà, tu les renies pas, etc. Et donc, non, là, ça a été de demander que ce soit pour l'ensemble, en se disant, on verra, ils vont dire oui ou non, ils diront sûrement non. En fait, ils ont dit oui. Donc
oui. Et alors, il y a aussi eu cette décoration. Par la ville de Grenoble, par le musée de la Résistance et par la mairie, par le député maire, enfin. Et les journaux ont mis « Adolfo Kaminski a sauvé 3000 enfants juifs ». J'étais très étonné. Pourquoi 3000? D'où vient ce chiffre? J'ai dit « Mais c'est beaucoup plus, mais c'est pas moi tout seul ». Et puis, ensuite... la question a commencé à trotter dans ma tête et dans celle de quelques amis. Et la question a été posée à Vidal Naquet, qui, lui, avait une grande admiration pour moi. Il a dit, c'est 14 000. Bon, effectivement, il y a eu 14 000 enfants juifs sauvés, mais pas par moi, par tout le monde. Les familles qui ont caché des enfants... Des couvents ou des prêtres qui ont aussi caché, des fermiers qui ont gardé chez eux, etc. Enfin, plus tout le monde s'y était mis. Ce n'était pas moi tout seul. C'est ça le malentendu. Et les chiffres réels, je ne les connais pas. Et puis... voilà.
Est-ce que vous participiez aux discussions, aux orientations politiques des groupes auxquels vous rendiez service?
Non, parce que je ne voulais pas être connu du groupe. C'était pas possible. On ne peut pas être à la fois un homme souterrain et apparaître. D'ailleurs, c'était un problème dans le réseau Janson, par exemple, qui a aidé les Algériens. Janson faisait appel à la presse, enfin faisait le plus faisait savoir ce qui se passe, publiait des choses. C'était nécessaire. Et en même temps, il voulait faire un travail clandestin. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Et c'était grâce à moi qu'il a pu passer à travers les frontières, survivre, etc. Mais j'étais toujours furieux, on se disputait très fort. Ceci dit, c'était un homme admirable.
Et surtout, il était ton contact, enfin, tu avais deux contacts, quoi. Oui. Et après les autres, les réunions, tu n'y étais pas.
Mais j'ai piqué des colères quand un jour, pendant le procès Janson, maître Roland Dumas vient avec Janson dans mon laboratoire. Oui, d'ailleurs, bon, on est restés très amis après, mais au moment, je leur ai fait honte.
Ben, oui, puisque il était avocat de la défense des accusés du réseau Janson, donc c'était hyper dangereux.
Oui. Et il a eu droit à un livre dédicacé par ma fille.
Et toi, Leïla, Sarah, non, mais je pense à ta mère, parce que tout à l'heure, je me demandais si elle connaissait tout ça, en fait, aussi, quand elle...
Quand elle l'a connue, non, elle ne connaissait pas tout. Elle savait quelques petites choses. Et puis après, elle a su d'autres choses, mais alors plein de choses fausses, puisque je crois qu'elle avait quelqu'un qui la courtisait, qui avait ouï dire des choses. Elle entendait des choses vraies, des choses fausses. Et soit pour la démotiver de l'épouser, ou pour la... Non. Oui, non, c'était oui, non, la personne. Non, c'était plutôt plutôt pour qu'elle ne l'épouse pas.
Je lui faisais de l'ombre.
Voilà, donc elle a su elle a eu des mauvaises informations, elle en a eu des bonnes. Et puis, je crois qu'après, elle en a eu de plus en plus au fur et à mesure, mais ça n'a pas été évident, apparemment. Elle a été la dernière personne que j'ai interrogée pour l'écriture du livre, puisque le livre s'arrête avant qu'ils se connaissent, qu'ils se rencontrent. Mon père et ma mère. Donc, elle a été la dernière que j'ai interrogée, quand même. Et elle m'a dit qu'effectivement, il avait beaucoup, beaucoup de mal à parler de plein de choses. D'une part, parce que c'était politiquement, enfin, dans le temps très, très proche. Et puis parce que en Algérie, il y avait plein de choses qui se disaient dans le but de faire du mal ou de choses comme ça. Enfin, il y avait été confronté. Donc, il n'était pas très, très partant pour parler de tout, mais elle savait plus de choses que moi, en tout cas au départ. Et je pense qu'elle a appris des choses quand même en lisant le livre.
C'est vrai. Tu lui racontais pas. Enfin, tu gardais cette partie un peu.
C'est pas ça. Il y a deux aspects. D'un côté, j'avais l'habitude de tout garder pour moi. Mais au-delà de ça, dans cette vie que j'ai eue, il y a une très, très grande part de souffrance que je n'ai pas voulu partager ni faire connaître parce qu'on n'a pas le droit, on a des enfants, il faut qu'ils voient les choses les belles de la vie et on n'a pas le droit de leur mettre sur le dos des choses horribles que l'on a eu à subir, qui était la raison de mon action ininterrompue pour que ça n'arrive pas aux autres.
Ton travail contre le franquisme.
Oui, évidemment, depuis toujours. Mais alors, comme il y avait des groupes qui passaient plus d'énergie à se taper les uns sur les autres pour des questions politiques que de se battre contre le franquisme, j'avais décidé de ne pas faire moi-même, mais de former. Donc les gens que j'ai formés le plus, c'est les républicains espagnols, enfin, et toutes les tendances, les communistes espagnols, les trotskistes espagnols, enfin, qui se chamaillaient entre eux au lieu de se battre contre Franco. Et ça, c'était quelque chose de malheureux. Et donc, je les ai obligés à faire eux-mêmes en leur apprenant au maximum. Et alors, j'avais organisé des espèces de boîtes où il y avait tous les éléments pour pouvoir faire face à des demandes de faux papiers. Ça veut dire qu'il n'y avait pas l'impression. Bon, par contre, j'ai imprimé les choses. Mais tout ce qui était remplissage, tampons, fabrication des tampons, etc., était dans la boîte avec tout. Je l'ai fait aussi dans la lutte contre les colonels grecs, tout en faisant cependant quand même beaucoup de choses moi-même. Mais j'ai formé aussi parce que c'était une question de quantité possible. Je ne peux pas, moi, tout seul, même en travaillant jour et nuit, comme j'ai fait souvent, faire face à tout. Donc, former au maximum des gens valables. Et ce n'est pas tellement évident de tomber sur des gens valables qui n'aient pas d'arrière-pensée personnelle, etc., etc. Donc, les antifranquistes ont été ceux qui ont bénéficié de plus de gens formés, ce qui me libérait de devoir faire moi-même.
Et comme tu es d'origine russe, tu n'as jamais pensé à aller aider les Russes à sortir de leur...
Non, pas du tout, parce que là, c'est un problème très complexe. Je suis d'origine russe, fier de l'être. Mon père était marxiste, pas stalinien ou marxiste de la première heure, c'est-à-dire d'avant la guerre de 14-18. Oui, bien sûr. Non. Et puis, attends, il ne s'agit pas de vouloir ou pas. Qu'est-ce que je pouvais rien. Je pouvais de toute façon rien faire. Et puis. Oui. Je ne pouvais rien faire. Et puis, croyez-moi que j'avais assez d'occupations.
Par contre, tu as fait quelques. Tu as fait des papiers pour des personnes qui fuyaient après le printemps de Prague, après l'invasion. C'était pas les Russes directement, mais.
Oui, c'était peu. Enfin. Ouais. Quelques personnes particulièrement en danger. Mm. Pour moi, c'était de permettre à des gens de survivre. Pendant la libération de Paris, j'ai sauvé un officier allemand qui était blessé, qui était sur un brancard. Il y avait un type, un alcoolique, qui est venu. Moi, je portais le brancard avec une jeune femme. Il est venu avec un revolver. Je veux en tuer un. Je me suis battu avec lui pour le désarmer, parce qu'on l'a emmené à l'école de médecine où il y avait une salle d'opération d'urgence. Il y avait des étudiants qui pédalaient sur des vélos pour produire l'électricité nécessaire à la salle d'opération. Il y avait des choses, on n'en parle jamais.
Aujourd'hui, ça ne serait plus possible avec les outils de contrôle, avec les cartes numérisées.
Ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire que les truands et les mafias peuvent continuer tranquillement, mais aujourd'hui, tout est numérisé. Puis il y a les ordinateurs. Etc. Il y a quand même des possibilités, mais elles sont très réduites.
Non, par contre, c'est des possibilités, mais qui nécessitent tellement d'argent que quelque part, ça peut. Enfin, oui. Effectivement, comme tu dis, seuls les mafias ou.
Oui, bien sûr. Il y a aussi les possibilités de doublage. Ce que nous appelions des doublages, c'était, par exemple, monsieur Jean-Pierre Dupont. 35 ans, existe, il est brun, il habite à telle adresse, et ben il y en a un deuxième tout pareil, lequel est le vrai? C'est ce que nous appelions les doublages.
Sauf que si réellement il y a un système de fichage, si les deux monsieur Dupont utilisent leurs deux cartes bancaires au même moment à deux endroits distincts.
Non, mais attends, il s'agit pas de cartes bancaires. Il s'agit de survie. Attention, c'est pas pour s'installer dans une vie de longue durée. Il s'agit de courtes périodes d'un passage de frontière ou de sauver sa vie, quoi. Donc ça, c'est une possibilité, mais très réduite, parce que il faut aussi. Il n'est pas question Jean-Pierre Dupont numéro 1 soit rouquin et que monsieur Jean-Pierre Dupont numéro 2 mesure 1m90 soit brun foncé. Bon, vous n'avez pas de questions. On pourrait parler de la photo. Ça serait mieux. Oui, alors toi tu veux faire des photos vraies ou faux?
Oui,
mais si le vrai est faux et le faux est vrai, on ne s'en sortira pas.
Non, mais c'est oui. Pas grave. Oui. En fait, c'est pas pour trouver une solution.
Oui.
C'est pour essayer de.
Oui. Oui. Alors pour en parler pour parler de faux et de vrai. J'ai pas aimé du tout le titre de ce livre, mais je n'ai trouvé aucun titre, parce que quand on regarde ça au premier degré, bon, c'est un titre avec mon vrai nom en plus.
C'est vrai qu'on a cherché longtemps un titre qui correspondrait bien. On en avait plein, mais aucun qui nous passionnait. Et finalement, c'est l'éditeur qui a choisi le titre. Et je crois que le mot que tu n'aimes pas, c'est le mot faussaire.
Ben oui, puisque,
mais en même temps...
Non, parce que ce que moi je faisais, c'était les vrais papiers. Les faux, c'était le gouvernement qui les faisait. Parce que, vous voyez, pour en revenir à mon aide à l'Algérie, moi j'étais à l'école primaire. J'ai eu mon certificat d'études primaires. Et puis, j'étais dans la République française où on nous disait liberté, égalité, fraternité. Et c'est ce que j'ai appliqué, tout simplement. J'étais un bon élève. C'est vrai, j'étais souvent le premier de la classe.
Ben voilà. On te retrouvera bientôt encore pour aussi tes photographies. Alors maintenant,
oui, bien sûr. Alors, ce qu'il y a aussi, bon, j'ai gagné ma vie enfin en faisant de la photo, c'est-à-dire des reproductions d'œuvres d'art pour des catalogues, des musées, des éditeurs, des galeries. Et là, il n'y a aucune création personnelle. Ça veut dire qu'il faut que ce soit bien, que le tableau de la photo soit aussi exact que l'original, que les couleurs ne soient pas déformées. Pour une sculpture, il faut que ce soit bien éclairé, etc. Mais il n'y a aucune création. Et je faisais, pour mon plaisir, des photos de Paris que j'aime, des photos la nuit, etc. Enfin... Et je n'ai jamais tiré ces photos, je les développais, je les mettais précieusement dans des pochettes cristal, et puis je mettais l'année. Et comme ça, j'en ai accumulé beaucoup, et maintenant, je commence à les tirer. Et alors, c'est une bonne surprise, parce qu'elles plaisent beaucoup. Et j'ai l'intention de faire ma première exposition dans ma 84e année, tout jeune, quoi. Et puis, vous verrez le Paris qui n'existe plus. Enfin, tout le monde me dit qu'elles sont bien et moi-même, j'aime beaucoup. Voilà.
Et est-ce que les sténopées qu'on a vues dans le film, l'image, elle tient longtemps, l'image ? Elle est fixée, l'image des sténopées ?
Oui, elle n'a pas à être fixée puisque l'albumine, c'est-à-dire le produit photosensible, a été noirci uniformément. Et puis, il y a la partie qui a vu la lumière qui est devenue insoluble et l'autre partie qui est restée soluble. Donc, en lavant à l'eau claire, on fait partir toutes les parties blanches, si l'on veut, et les parties noires restent. Elles n'ont pas besoin d'être fixées. C'est comme si c'était une peinture qui est soluble dans certaines parties et pas dans d'autres. C'est passionnant, d'ailleurs, et c'est très joli.
Vous en avez fait plusieurs, vous en avez gardé, vous avez des...
J'ai pas entendu.
Est-ce que tu as gardé des...
Oui, j'en ai gardé. Et puis, j'ai été invité il y a quelques années au Liban par une bibliothèque française pour créer une école de photos. J'y suis allé avec la mère de Sarah. Nous avons passé un mois et j'ai fait faire des photos avec des boîtes à chaussures, des boîtes à thé, des boîtes à camembert. Enfin, c'était des adolescents et des adolescentes en majorité et qui se sont amusés comme des petits fous et des petites folles à tout photographier avec leurs boîtes personnelles. Et c'était très, très beau. On a fait une exposition Et l'école de photo de Beyrouth a voulu à tout prix m'inviter pour que je leur parle de cette et que je leur raconte l'histoire du sténopé. C'est très beau. Alors bien sûr, les poses sont longues et ça permet d'avoir des images très dépouillées sans des personnes, par exemple une vue d'une rue de Paris. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de bus qui passe. Il n'y a que la ville est vide, comme pour la Tour Eiffel d'ailleurs, où il y avait un monde fou. Et
oui, oui, non, mais c'est très complexe.
Oui, non, ça fait.
Il faut être inquiet pour arriver à montrer tout le personnage. Enfin, dans un projet comme ça, c'est pas un artiste, c'est pas un faussaire, c'est pas. Enfin, tu vois, tu ne peux pas, tu n'as pas l'identité, finalement.
Ah, oui.
On ne peut pas t'identifier.
Et moi, j'ai une question. Comment on passe de l'ombre à la lumière dans votre vie, enfin, dans votre vie, vous êtes passé de l'ombre, personnage caché, flanqué.
Oui.
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 Oui,
mais. Oui. Mais c'est pas si simple. Et puis, je ne sais plus là maintenant, parce qu'il faut dire que ma fille et mon épouse, enfin sa mère, ont été formidables, m'ont préservé, m'ont aidé. Moi, je ne l'aurais jamais fait. J'avais pas envie en plus, mais elle est arrivée à me persuader que c'était utile, que ça pouvait servir. Et c'est pour ça que j'ai cédé. Parce que, vous savez, tout était toujours caché et je ne voyais aucun intérêt à raconter. Pourquoi faire ? C'est pas la joie, enfin. C'est besoin c'est toujours toujours très dramatique, enfin c'était pas les problèmes de survie j'ai pas pu sauver tout le monde, donc c'est toujours un peu attristant. Sans parler de gens que j'aimais, qui ont participé avec moi, qui ont tous disparu pour des tas de raisons. Déjà, les différences d'âge. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'étais le plus jeune. Et très curieusement, j'ai pris au sérieux au-delà de ce que j'aurais pu imaginer.
Est-ce que des gens à qui tu as sauvé la vie en Algérie ou avant t'ont retrouvé ?
Il y en a qui m'ont retrouvé, puis il y en a aussi que moi j'avais retrouvé, que j'ai mis à contribution pour en sauver d'autres. Parce que si j'ai pu faire autant, c'est aussi en mettant les autres dans le bain, avec leur accord évidemment. Ils me faisaient une confiance totale. Dans le livre, il y a une histoire qui est racontée à propos d'un Algérien qu'il fallait mettre en sécurité de toute urgence à un moment où il y avait énormément d'arrestations par les imprudences des gens qui s'occupaient de l'hébergement et de la sécurité des Algériens qui bavardaient trop, qui parlaient au téléphone, qui c'était impossible. Alors, il fallait à tout prix mettre en sécurité une personne qu'on venait de faire évader de prison. Alors j'ai téléphoné à un ami que j'ai été voir. Bien sûr, jamais au téléphone, rien n'était dit. J'ai été voir et je lui ai demandé d'héberger pendant quelques jours cet Algérien, le temps de pouvoir l'évacuer. Il m'a dit, tu te rends compte de ce que tu me demandes ? Tu sais que je suis Algérie française. J'ai dit oui, c'est pour ça que je suis venu te voir, parce qu'on ne viendra jamais le chercher chez toi, parce que les gens proches du Parti communiste étaient sur le collimateur. Il y a eu beaucoup d'arrestations, etc. Il m'a dit, mais c'est dégueulasse. J'utilise son vocabulaire. Hein. C'est dégueulasse ce que tu me demandes, tu te rends compte? Parce que je n'ai pas le droit de te refuser. J'ai dit, si, tu peux refuser, tu dis oui ou non. Si c'est non, on n'en parle plus. J'ai présenté ça comme étant un ami. Je n'ai pas dit que c'était que je travaillais jusqu'au par-dessus la tête dans ces problèmes. Il m'a dit, mais tu sais que je ne peux pas te refuser, tu as sauvé toute ma famille. J'ai dit, c'est pas moi, c'est le réseau. Oui. Alors, bref, il me dit une fois, mais pas deux. Hein. Je savais qu'il serait en sécurité, qu'il serait bien traité et tout. Alors, j'ai amené la personne. Et puis, trois jours après, on l'a récupéré, on l'a évacué par le Maroc. Tout s'est bien passé. Un jour, il me téléphone. Adolphe, je veux te voir. Il parlait très sec. Je me suis dit, encore, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu l'Algérien qui était hébergé dans une famille qui avait les mains baladeuses. Il sortait de prison. Bon, il y avait celui qui a vidé tout le whisky de la maison. Des choses comme ça. Bon. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais le voir. Il me dit, tu sais, ton gars, il était d'une grande culture. J'ai dit, ça t'étonne, tu crois que tous les Algériens ils font des trous par terre avec des marteaux-piqueurs? Il me dit, il était d'une grande culture, et puis, dans le fond, il faisait de la résistance, comme nous, on a fait. Si tu en as des comme ça, d'autres, tu peux me les envoyer. Je n'en ai jamais envoyé d'autres, évidemment. Mais c'est pour dire que les gens ne savaient pas à qui ils avaient affaire et avaient intérêt à connaître celui qu'ils considéraient comme un ennemi. Parce que ce monsieur était un rapatrié, pas rapatrié d'Algérie, mais fils de pieds noirs, ancien de la résistance, bien sûr. Voilà. Les gens ont tout à apprendre.
Bien voilà.
Merci.